Apprenez à reconnaître les oiseaux dans votre jardin, dans un parc public ou tout simplement depuis votre balcon. En savoir plus sur les oiseaux des jardins, comment les accueillir ? Bienvenue aux Oiseaux des Jardins sur l'antenne de Radio Alpes-Morcel avec notre invité Monsieur David Lechat pour la LPO, Ligue de Protection des Oiseaux. Monsieur Lechat, bonjour.
Bonjour.
Alors de quel oiseau allons-nous parler et faire découvrir ou redécouvrir à nos auditeurs aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on va parler du merle. Le merle, son vrai nom, c'est le merle noir. Alors évidemment, il n'y a pas besoin de préciser beaucoup de choses pour qualifier cet oiseau, puisque le noir vient de sa couleur. Encore qu'il y aura une différence, on en parlera tout à l'heure, parce que seul le mâle est noir. Alors ce merle noir, donc Turdus merula, qui veut dire en latin la grive noire. Bon, rien d'exceptionnel. C'est aussi un passereau. Alors il est assez gros. Il se rapproche un petit peu dans ses caractéristiques du rouge-gorge, dont il a changé de famille d'ailleurs. Lui, il fait partie de la famille des Turdidés, le merle, et donc il a des caractéristiques proches de celles des grives, on en parlait tout à l'heure.
Décrivez-nous celui-ci ainsi que son mode de vie.
Donc le mâle est tout noir, je disais, comme son nom l'indique, le merle noir, avec le cercle oculaire jaune. Et le bec est bien jaune aussi. Donc il est assez facile à reconnaître et beaucoup de gens le connaissent parce que c'est un oiseau assez commun dans nos jardins. Net dimorphisme sexuel quand même, parce que la femelle est plutôt brune, avec des couleurs plus claires à certains endroits, notamment au niveau de la gorge. Son bec est d'ailleurs un peu moins jaune. Il est jaune, brun, on va dire. C'est un oiseau quand même assez costaud, hein. Il fait plus de 100 grammes, environ 100, 110, 120. Il est assez long, il fait 25 centimètres en gros. Et puis une largeur des ailes, une envergure d'environ 35 centimètres. Donc c'est quand même un oiseau qui s'impose. Et d'ailleurs, il n'hésitera pas à faire le ménage autour de lui, notamment lorsqu'il se dispute la nourriture à la mangeoire l'hiver. Il habite un peu partout, en lisière de forêt, dans les parcs, dans les jardins. Et je dirais, c'est ça qui fait qu'on le voit un peu partout, et surtout qu'on en voit encore, parce que certaines espèces sont menacées. Lui, pas trop. C'est ça qui fait sa force de pouvoir s'adapter à beaucoup de milieux. Une particularité notamment, c'est que, alors lui c'est le premier à chanter, hein, c'est quasiment le premier à chanter, notamment bien sûr au printemps. Il fait à peine jour qu'il chante déjà, il fait à peine nuit qu'il est encore dans le jardin. Donc c'est vraiment le premier et le dernier à se lever et à se coucher. Et l'autre particularité, c'est que c'est l'un des premiers à nicher. Février-mars, hein, si vraiment fin février il commence à faire beau, il va commencer à vouloir nicher. Alors ça a un impact si on veut l'accueillir dans notre jardin, parce qu'il va falloir tailler nos arbustes, etc., du moins faire le ménage dans le jardin, avant qu'il s'installe. Parce qu'une fois qu'il va s'installer, si vous taillez, évidemment, vous allez le déranger. Et là, pour le coup, il va abandonner ses œufs ou sa nichée, ou même la construction de son nid. En ce qui concerne son régime alimentaire, il mange au sol. Il mange des vers, des insectes, il gratte et surtout, alors il a une force terrible dans son bec. Il donne des grands coups de bec, des grands coups de, avec son cou un peu élancé, là, il retourne la terre. Alors ce qu'il aime, c'est quand vous avez des petits arbustes et puis moi je mets des copeaux de bois autour pour éviter que l'herbe nous repousse et puis maintenir l'humidité, notamment la fraîcheur en été. Alors ça il adore parce que il suffit qu'on arrose un petit peu, ça reste toujours bien frais. Alors il pousse les petits copeaux et puis il trouve toujours de quoi grailler en dessous. Alors tantôt un ver, tantôt un petit cloporte ou je sais pas quoi. Bref, il y a toujours à manger là-dessous.
Des risques de confusion avec une autre espèce possible ?
Alors en ce qui concerne les risques de confusion, le mâle, il est bien noir, il est de taille assez grosse, il n'y a aucun risque de confusion. En revanche, la femelle, de loin, on pourrait la confondre avec une grive, parce que c'est un petit peu la même taille, bien que sa queue soit un petit peu plus longue. Franchement, sans jumelles, sans rien, des fois on peut être gêné pour apprécier les couleurs, et là pour le coup, le risque de confusion peut éventuellement s'installer. Mais ça reste quand même assez faible, hein, en dehors de ça. Le jeune, lui, par contre, va beaucoup ressembler, enfin beaucoup, tout est relatif, mais bien plus que la femelle, ressembler à une grive. Parce que là, pour le coup, lui, il est beaucoup plus brun, il est brun comme la femelle, mais alors il va être beaucoup plus moucheté. Et d'ailleurs, le rouge-gorge familier, le jeune rouge-gorge, on dirait un petit merle en miniature. Un jeune rouge-gorge et un jeune merle, c'est quasiment la même couleur. Si on aura l'occasion, on aura peut-être l'occasion de parler d'autres espèces comme le rossignol, le rouge-queue, eh bien pareil, ils se ressemblent tous. Et d'ailleurs, des fois, il n'y a que la taille qui fait la différence, bah, notamment avec le merle.
Et côté nidification, comment cela se passe-t-il pour cette espèce ?
Alors, le merle, lui, il niche dans un arbre ou un arbuste. Il lui faut une branche assez solide quand même. Certains oiseaux nichent plutôt au bout des branches. Lui, il va plutôt nicher plus près du tronc, enfin, sur des branches plus solides, hein, parce que son nid est quand même assez lourd, assez dense. Donc, il faut que ça soit solidement amarré. Il ne faut pas qu'un simple coup de vent le balaye. Moi, il niche régulièrement ce qu'il aime bien. Ce sont les petits conifères vert clair. Je crois que c'est un cyprès doré. Tout le monde se souviendra des petites compositions florales, et notamment les compositions que l'on met sur certaines tombes. Et vous avez un petit conifère, généralement. Et bien, c'est ce petit sapin-là. Quand la composition est défraîchie, ben on peut récupérer ce petit conifère et puis le planter dans le jardin. Il va pas pousser très très haut, il va pousser à 2 mètres 50. Puis de toute façon, si vraiment il vous échappe, vous l'étêtez. Et donc là, pour le coup, il va se renforcer en circonférence. Et là, ça va être très intéressant pour le merle, pour la linotte. Moi, j'ai ça dans le jardin et ça marche à tous les coups. Le merle est ravi de pouvoir nicher là-dedans. Alors c'est un nid fait d'herbes sèches. Et la particularité de ce nid, c'est qu'il y a de la terre. À la base, il y a de la terre et ça fait quelque chose de très solide. D'ailleurs, quand on l'enlève, on peut l'enlever, hein, parce que de toute façon, il le réutilisera pas. Alors, l'enlever en fin de saison, parce que il lui permet de penser que la femelle puisse l'utiliser en cours de saison deux fois. Mais généralement, ils le font pas parce que si un prédateur a repéré le nid un peu tardivement et que les petits ont réussi à s'échapper ou les petits sont trop gros pour le prédateur, eh bien, la pie ou le jet qui a bien repéré le nid attend la prochaine ponte pour voler les œufs ou l'écureuil d'ailleurs. Donc la femelle, généralement, préfère prendre le temps de reconstruire ailleurs pour assurer la survie de son autre nichée. Alors justement, je parlais de la nichée, il y en aura deux, voire trois. C'est assez commun, trois nichées, puisqu'ils commencent de bonne heure, et parfois même, on peut aller jusqu'à quatre s'il y a une ponte de remplacement, mais c'est beaucoup plus rare, c'est généralement deux à trois. Il y a trois à cinq œufs, ils sont, alors la couleur, elle ne ressemble à aucun autre, du moins dans cette catégorie, bleu-vert, si ce n'est éventuellement les grises, bleu-vert ponctué de brun-rouge. C'est ce qui fait un petit peu la particularité de cette couvée qui est facile à reconnaître parce que de par la taille du nid et par la couleur des œufs. C'est la femelle qui couve. Elle couve seule. Le mâle, lui, va chercher à manger pour la femelle, mais pas seulement. Il surveille les abords, il défend le territoire. Et pendant que la femelle couve, eh bien donc, généralement, la femelle s'échappe du nid début d'après-midi et voire en fin de journée, quand les températures sont plus clémentes. Et là, c'est là qu'elle va en profiter pour faire ses besoins, parce qu'elle se sera retenue toute la journée. Donc, elle fait ses besoins, elle va manger. Bon, le mâle peut l'aider justement à manger, mais par contre, c'est pas lui qui couve, seule la femelle couve. Et donc, ils vont faire leur ponte de mars à juillet. Je disais, ça peut même commencer fin février pour les années fastes où le mois de février est clément. Les petits vont rester deux semaines, alors que c'est assez gros, eh bien ils grandissent très très vite, et notamment s'il y a une bonne nourriture. Donc deux semaines au nid. Ils seront adultes dès l'année prochaine. Ils vont donc pouvoir se reproduire dès l'année prochaine. C'est ça qui fait la dynamique de la population. Alors le problème, c'est que quand les petits sortent du nid, ils volent très mal. Certains passereaux, eux, peuvent déjà volter, rester dans les branches, etc. Dès qu'il est sorti du nid, c'est rare si le jeune merle est perché. Il tombe au sol, il va se repercher, mais ça va demander une journée ou deux. Et pendant ce temps-là, bah, il est la proie des éperviers, des chats, des chiens. Là, si vous avez un nid dans votre jardin, au moment de la sortie des petits, bah, faites attention aux chats et aux chiens. C'est le moment de les mettre à l'abri de manière à ce qu'ils ne prédatent pas l'oiseau, quoi.
Et quel lien entretient-il avec l'homme ?
Alors c'est un lien assez étroit parce que on le voit très très souvent. Il vient nicher facilement dans notre jardin, ça y a pas de souci. Il y a du bon, il y a du mauvais, parce que l'un des mauvais côtés, c'est que c'est un oiseau assez belliqueux, et donc les mâles, notamment au printemps, se bagarrent. Ça, on le voit assez souvent. Ils se bagarrent et on le voit même le long des routes. Mais le problème, c'est qu'ils s'occupent pas de la circulation. Et beaucoup, et des fois, on voit carrément deux cadavres parce qu'ils se sont fait heurter par les voitures, parce qu'ils se bagarraient au bord de la route. Donc, quand c'est comme ça, ils sont un peu fous, ils font gaffe à rien. D'ailleurs, si vous surprenez deux oiseaux en train de se battre, ils vont attendre le dernier moment pour lâcher prise et disons que vous ne représentez plus une menace à ce moment-là et tellement ils sont impliqués dans leur bagarre. Cet oiseau est l'emblème national, du moins l'oiseau national, je te précise, d'un pays, la Suède. Pour la Suède, c'est l'oiseau national. Au niveau des menaces, bah, il n'est pas très menacé, hein. Il vit quand même près de l'homme, il n'a pas peur de l'homme, pas trop peur. Bon, hormis les histoires de prédation dont on parlait tout à l'heure, mais sinon ça se passe bien. Comment on pourrait l'aider? Bah, en plantant, je disais tout à l'heure, des cyprès dorés, en plantant des arbustes. Il peut nicher dans un millepertuis, il peut nicher... Bon, si le millepertuis est assez solide, hein, parce que c'est quand même assez grêle. Bon, vraiment, il s'adapte assez facilement. Il viendra à la mangeoire. L'hiver, ça, il pourra venir à la mangeoire. Alors, si vraiment il a très faim, il va manger quelques graines de tournesol qui ont été ramollies la veille par l'eau, etc. Il peut même les gober. Mais franchement, c'est pas son régime alimentaire. Hein. Il a un bec assez conique, assez long. C'est un insectivore. Ça... Lui, c'est ce qu'il aime. Et puis, c'est aussi un frugivore. Donc là, pour le coup, là, ce qu'on peut faire, notamment l'hiver, c'est de laisser des pommes abîmées. Les pommes que vous n'avez pas mangées, donc vous pouvez les couper en deux ou entamer un petit peu la pomme pour qu'il ça soit plus facile, pour qu'il pique dans la pomme avec son bec. Moi, je le fais. Je prends soin quand même le soir d'enlever ça parce que pour pas laisser non plus les indésirables, que ce soit les rats ou autres, venir manger ça. Autre possibilité, c'est d'avoir un petit tas de feuilles, un petit compost au fond du jardin. Et là, bien évidemment, le compost reste chaud à l'intérieur, donc même quand il gèle, ça ne gèle pas au milieu du compost. Et là, un petit coup de fourche à bêcher, et là, pour le coup, vous allez mettre à découvert certains insectes, certains vers. Alors, il est toujours intéressant de le faire, notamment en fin de journée, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est le premier lever, mais c'est aussi le dernier coucher. Et donc, à la tombée de la nuit, souvent, vous les voyez arriver, et là, il va fouiller, il va faire tout votre jardin. Et là, si vous avez découvert une partie de votre compost, il viendra manger quelques vers que vous aurez laissés à découvert. Bon, pareil, il adore se baigner, hein, comme beaucoup. Et donc, l'été, on n'hésitera pas à laisser une coupelle de fleurs assez grande cette fois, parce que la taille n'est pas la même, dans laquelle on mettra de l'eau que l'on changera tous les jours, parce que, bah, bien évidemment, des fois, avec le plumage est sale, et puis les fientes d'autres oiseaux, donc c'est jamais agréable non plus. Donc, pour le coup, de l'eau fraîche tous les jours.
David, je vous remercie et vous retrouve très vite pour une nouvelle espèce d'oiseau à découvrir.
Merci à vous, à bientôt.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.